Il est décédé depuis. Il a été une grande figure de la Légion, du deuxième étranger qu'il a commandé pendant la guerre du Golfe. Et c'est grâce à lui que j'ai réussi brillamment mon concours. Il ne m'a jamais fait de cadeau. Il était d'une dureté exemplaire. Et en même temps, c'est ce qui m'a permis de ne jamais lâcher. Et au final, bah, je suis sorti major au concours. Voilà. Et là, pour le coup, sans lui, jamais ça n'aurait été possible. Et c'est comme ça qu'en 90, je rejoins l'école d'application de l'infanterie pour rattacher à la promotion de Saint-Cyr, qui est la Tom Morel, où je vais passer un an en école d'application. Où je vais vraiment apprendre. Alors moi, je l'ai déjà appris de manière empirique et sur le terrain. Là, on va venir compléter beaucoup ma formation dans tous les domaines et puis parfaire aussi mon savoir-vivre. J'avais besoin en tant qu'officier d'apprendre un petit peu les
T'étais un
bonnes
peu
manières d'un
brut, c'est ça?
officier,
Ouais.
etc. Voilà. J'ai aussi appris à danser à cette occasion. Enfin, bon,
Ah
ça a été
bon?
une année. Bah, attends, mais ça,
D'accord.
Montpellier, c'est sympa. Alors on n'avait pas de cours de danse, hein, pardon. Mais
Ah.
comme on avait beaucoup de soirées et qu'on était invité à pas mal de soirées en uniforme, j'étais le seul à pas savoir danser. Ils savaient tous super bien danser le rock, les Saint-Cyriens, moi non. Et donc j'ai pris quelques cours, j'ai appris à danser. Et moi, ça a été une année sympa, la mer est pas loin, j'avais ma moto, ma voiture de sport, enfin bon, tout était sympa. J'ai quand même bossé comme j'avais pas bossé depuis très longtemps,
Ouais.
pour pouvoir décrocher à nouveau la Légion étrangère en fonction de mon classement, parce que moi, il était inconcevable que je n'aie pas la Légion. Et d'ailleurs, en partant, la Légion m'avait dit, il ne serait pas envisageable que vous ne décrochiez pas la Légion à l'issue. Donc, démerdez-vous comme vous voulez, mais il va falloir sortir dans les meilleurs pour avoir
Legio
la Légion.
Patria Nostra, hein. Une fois que tu y es, c'est dur. Ouais. C'est dur d'en
Voilà,
sortir.
mais ça me convenait, voilà. Et donc, du coup, c'est ce qui s'est produit, et c'est comme ça que j'ai choisi de rejoindre le 3e REI, le 3e étranger, le régiment le plus décoré de la Légion étrangère, le régiment mythique, c'est le régiment de la jungle, que je rejoins à l'été 1991, voilà,
D'accord.
comme chef de section.
T'avais sauté en parachute déjà ou pas? Parce que finalement, ça, on l'a loupé. T'as sauté ou pas à un moment? Jusque-là.
Alors j'ai sauté plusieurs fois, mais dans le cadre de parachutisme sportif, parce que le régiment, donc pas avec un casque, paquetage et armes d'un avion militaire, mais le deuxième étranger avait une section militaire de parachutisme sportif, et du coup on allait sauter à une cinquantaine de kilomètres de là, il y avait un aéroclub. Et on allait
Ouais,
sauter régulièrement. Donc
quand même.
j'ai commencé mes premiers sauts en parachute à cette époque-là. Ouais.
D'accord.
Ouais. Et c'est là que j'ai commencé à choper le virus.
Donc te voilà reparti à la Légion. Deuxième épisode.
Donc la Légion, deuxième épisode. Et là, cette fois-ci, c'est plus en métropole, c'est en Guyane, le régiment de la jungle, le régiment des lieutenants aussi, parce qu'en fait, je découvre assez vite là-bas que les commandants de compagnie, les capitaines commandants de compagnie sont maintenus au quartier la plupart du temps, et puisqu'en fait, toutes les missions se font en section. Voilà. Et donc,
D'accord, ouais.
des missions profondes, des missions fluviales, des séjours au centre d'entraînement commando jungle de la Légion. Et du coup, moi, je vais être formé aussi à pas mal de spécialités. J'aurai la chance d'aller être formé à l'étranger, de faire beaucoup de missions, y compris des missions de personnes de recherche de personnes disparues, des missions
C'est
de...
vraiment comme on le voit dans les reportages, je ne sais pas, 90 minutes d'enquête ou des trucs comme ça. Ces types d'entraînement, c'est hyper dur, quoi.
Oui, après... Alors moi, je n'ai pas de télévision, donc mais je vois bien quand je vais chez mes parents, mon père aime bien regarder ce genre de truc, donc parfois je regarde quelques minutes. Oui, ben tout ce qu'il montre, il n'y a absolument rien de faux. Après, quand tu le regardes, c'est marrant parce que les gens qui le regardent de l'extérieur et qui ne l'ont pas vécu ont toujours l'impression que ce sont des choses absolument... incroyable, que c'est impossible. Bon, la réalité, c'est qu'avec un peu d'entraînement, en verrouillant un petit peu parfois les neurones, par rapport à ce qu'on te demande de faire, ben, tout ça se fait finalement assez facilement. Je crois que ça fait partie des grandes capacités de l'être humain, en fait, son adaptabilité. Et Moi, j'ai compris à ma première mission profonde, on partait pendant 30 jours, tu vis comme un animal pendant 30 jours, que c'est sûr que si tu gardes tes réflexes et si tu gardes en tête tous tes besoins de la vie de quartier, là, tu vas souffrir parce qu'il n'y a plus de douche, il n'y a plus de crème pour te crémer après la douche, il n'y a pas de sèche-cheveux, il n'y a pas de lit confortable, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de glace, il n'y a pas de pop-corn, il n'y a plus rien de tout ça. Tu vis au milieu de la jungle, tu pars avec deux treillis qui, dès le troisième jour, sont trempés et dégueulasses tous les deux. Et pendant 30 jours, tu vas être trempé de transpiration et de pluie ou de l'humidité résiliente dans la jungle ou de traverser des marécages pendant 30 jours. Et tu es bouffé par les moustiques, les fourmis, etc. Donc, si tu as peur du moindre bruit, si tu as peur des serpents, si tu... tout ça. Mais finalement, si tu oublies tout, tu vois, moi, je me suis rendu compte, je vais te donner une anecdote. Ma première mission, peut-être au bout de 15 jours, je ne sais plus, ou 3 semaines, je ne me souviens plus, on a marché pendant plusieurs jours et on n'était que dans des marécages. Alors on faisait 2-3 kilomètres dans la journée parce qu'on n'arrivait pas à progresser, à avancer. Et donc on est boueux, transpirant, bouffé par les moustiques et les fourmis. Bon. Et on n'arrive pas à se laver correctement le soir, donc tu gardes tout ça sur toi. Bon. Et au bout de plusieurs jours, on rencontre c'est ce qu'on appelle là-bas des criques, mais c'est même plus une crique parce qu'on était à la source, c'est un tout petit ruisseau. Mais un tout petit ruisseau d'eau claire. Et bien là, le soir, au moment parce qu'on s'arrête tôt en progression en Guyane, parce que la nuit tombe à partir de 17h, il fait nuit, parce que la couverture des arbres ne laisse plus passer, ne laisse plus filtrer la lumière. Et donc, on s'arrête assez tôt, chacun nettoie son bivouac, tu tends tes bâches pour te protéger de la pluie, ensuite tu tends ton hamac, tu vas découper des piquets sur lesquels tu retourneras tes rangers, tu vas accrocher sur un trépied que tu fabriques, ton sac à dos, etc. Tu laisses rien au sol parce que il y a des bêtes, voilà. Et une fois que tout ça est fait, tu remets en condition ton matériel, donc tu nettoies ton arme, etc. Et une fois qu'enfin tout ça est terminé, la nuit commence à tomber, tu te mets une petite serviette autour de la taille, tu te mets tout nu et tu mets tes pompes, tu mets tes rangers pieds nus, et avec le savon que tu as mis dans ton car et un petit gant de toilette, tu vas te laver là où tu trouves ce qu'il y a. Quand c'est du marécage, tu te laves dans le marécage. Et là, cette fois-là, c'était un petit ruisseau qui devait faire peut-être 40 cm de large sur 15 cm de profondeur. Eh bien, j'ai trouvé une pierre plate que j'ai soigneusement rincée avec mon car. Et là, je me suis assis, j'ai posé mes fesses, je me suis assis sur cette pierre plate, les pieds dans le tout petit filet d'eau claire. Et avec mon car, je m'aspergeais la tête et le corps de cette eau pure. Et là, je me suis dit, ah, ça vaut tous les 5 étoiles du monde. Et là, ça y est. Et en fait, c'est ce soir-là dans mon bivouac que je me suis dit, bah tiens, là, il y a une sacrée bascule, quoi. Tu penses plus à la douche, tu penses plus à un lit confortable. Ça y est, tu t'es adapté. Et je crois que c'est une vraie capacité de l'être humain.
Sachant, alors je fais juste un saut dans le temps, que 20 ans ou 30 ans plus tard, non, plutôt 20 ans, 25 ans plus tard, tu te dis, tiens, si j'emmenais mes enfants en vacances en Guyane dans la jungle.
Oui, en effet.
Le truc qui vient à l'esprit de tout le monde. Hein.
Écoute, si.
Est-ce qui prouve que tu as eu un vrai attachement par rapport à tout ça aussi?
Ah mais oui, mais moi je suis parti, j'ai quitté la Guyane en 1993, j'ai embrassé la terre guyanaise en partant, et j'ai dit à cette terre, j'ai appris énormément sur moi et sur la vie ici. Parce qu'en plus, j'ai perdu 2 hommes pendant ces 2 années, et je reviendrai. Et je l'avais dit, je reviendrai. Et en fait, je m'étais dit, on va venir après, parce que pourquoi je quittais en même temps que je quittais la Guyane, je quittais la Légion, puisque j'avais réussi les tests pour rejoindre le service action de la DGSE. Et, mais ce que je savais, c'est que la formation allait durer au moins une année, et que beaucoup échouaient puisqu'il n'y avait pas de numerus clausus, et que donc avoir réussi à intégrer le service action, c'était déjà une sacrée chance. Maintenant, après, garantir que tu y serais encore un an plus tard à la fin de ta formation, ça, c'était pas du tout garanti. Ouais, et donc, je m'étais dit, si jamais j'échoue, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour revenir en Guyane, commander une compagnie à la Légion étrangère ici, voilà, au troisième étranger, parce que même si je savais que le poste de commandant de compagnie était beaucoup moins sympa, j'étais tellement attaché à cette terre que j'espérais y revenir. Et donc, effectivement, il a beaucoup d'eau à couler sous les ponts avant que je n'y retourne, et l'opportunité s'est présentée à un moment. Le dernier de mes enfants, mon fils, avait, je sais plus, 10 ans, je crois. 9 ou 10 ans, je crois.
Tu te rends compte quand même que t'es un grand malade.
Pourquoi?
Je sais pas, un môme de 10 ans comme ça dans la jungle, enfin bon, c'est.
Tu sais, Pierre, qu'il y a beaucoup de. La Guyane est un pays peuplé, donc il y a des enfants qui naissent et qui grandissent là-bas.
Ouais, mais tu les as fait bivouaquer dans la jungle. Tu les as pas mis dans un hôtel 5 étoiles, les
mots. Mais si on allait là-bas, c'était pour ça. Et mais écoute, je vais te dire, mon fils, il est devenu. En fait, il est pareil, comme un poisson dans l'eau. Parce que pour un gamin, en fait, s'il te sent en sécurité, si toi, voilà, si tu lui montres, voilà, je vais montrer comment on avait trouvé un serpent un jour, je vais montrer. Voilà, qu'il fallait pas les manipuler parce que lui ne les connaissait pas, il sait pas si c'est venimeux, pas venimeux. Tu lui apprends les quelques règles essentielles. Et après, pour le coup, mais c'est un pays de liberté que tu peux même pas imaginer. Et il allait pêcher avec ses petits camarades là-bas, il allait chasser. Et au bout de 3 jours, il était en tongs dans la forêt comme les gamins du coin, quoi. Donc il a adoré, je crois qu'il en garde. Et d'ailleurs, tiens, c'est marrant que tu me dis ça, je suis en train de penser qu'il y a quelques jours, mais peut-être la semaine passée, il m'a demandé si on pourrait y retourner, tu vois.
Alors, tu as, sur un registre plus sérieux, tu as dit, j'ai perdu 2 hommes. On oublie un peu trop souvent que dans ce type de travail, il y a des questions de vie ou de mort. Comment, en tant que chef, on fait face à ça?
Je ne saurais pas te dire comment les autres y font face. Ce que je peux dire, c'est comment moi, j'ai fait face. Je n'ai pas très bien fait face, d'ailleurs. Je dis souvent que voilà, je n'ai pas pleuré, mes hommes n'ont pas pleuré non plus. Pour autant, on était choqués. J'ai perdu 2 hommes à l'entraînement parce que voilà, entraînement difficile, guerre facile, c'est un vieil adage militaire. Et donc tout ce qu'on faisait, on le faisait dans des conditions réelles. Et voilà, une enquête a été conduite et puis en 48 heures, il était montré qu'il n'y avait aucune faute de commandement, que voilà, c'est un pays dangereux. À l'époque, le régiment avait une 20aine de morts par an. Alors c'était énorme. Mais voilà, c'est un pays où quand tu bivouaques en forêt, la nuit, des arbres se cassent ou se déracinent parce que le sol est complètement spongieux. Quand tu as un arbre de 30 mètres qui commence à se déraciner, il en emporte une 20aine d'autres sur son passage. Si une équipe bivouaque dessous, elle prend des arbres sur la tête.
La nature.
Oui, il y a des animaux dangereux, il y a le fleuve est dangereux, la jungle est dangereuse, il y a des trafiquants dangereux, on fait des activités dangereuses, de tir dans la forêt, de piégeage, etc. Donc forcément, parfois il y a des accidents, et parfois ces accidents sont mortels. Et donc voilà, moi comment j'étais sous le choc, et une fois que la commission a pu prouver que voilà, en 36 ou 48 heures que je n'y étais pour rien, on m'a dit voilà, vous êtes maintenu dans votre temps, dans votre commandement et aucune poursuite ne seront retenues contre vous. Vous ne pouviez rien y faire. Mon commandant de compagnie m'a quand même convoqué en me disant prenez 48 heures, allez vous brûler la gueule et revenez dans 48 heures. Bon, c'est ce que j'ai fait pendant 2 jours. Et puis en fait, ça n'a rien changé. J'ai gardé un trou béant en moi pendant des années. Et puis finalement, et en revanche, ça a lentement commencé à changer mon regard sur la vie, sur les hommes aussi, et je pense que j'ai beaucoup de mes certitudes se sont craquelées à partir de ce moment-là, et ma manière d'être avec mes hommes, lentement mais sûrement, a commencé à changer à partir de cet événement.